plus une loi logique. Déjà, le fait que ce soit une loi logique, ça change. C'est un contexte qui change complètement la lecture de ça. Et il y a des mecs qui vous disent ça comme ça. Écoutez bien, moi j'ai ça dans Hughes and Presswell, un livre sur les logiques modales. Si P est vrai, alors n'importe quoi implique P. On peut le lire comme ça, on peut le comprendre comme ça, mais c'est une lecture fragmentaire. Vous voyez ? Parce que le fait d'avoir substitué, regardez, ne serait-ce que ça, vous voyez bien que P implique R n'est pas une thèse. En aucun cas. P implique R. Ça ne mérite pas ce caractère. On ne peut pas l'écrire dedans, devant. Hein, même si Claude Imbert nous dit que c'est un caractère parasite, elle n'a pas complètement tort, parce que c'est quelque chose qui est quasi équivalent à la parole, au signifiant, hein, à l'énonciation, au fait de dire. C'est le fait de dire. Le fait de dire, en logique, c'est pas le fait de l'écrire ou pas l'écrire, c'est le fait que on n'écrit que des choses qui sont nécessairement vraies. Donc c'est presque une loi de la parole. C'est ce qui me fait penser que les mathématiciens sont des gens qui ont intégré la loi de la parole d'une manière intime dans leurs écritures. Et du coup, ils font des calculs parce que ils s'occupent pas de savoir s'ils regardent à droite, à gauche, si personne les voit, puis hop, ils trichent dans les calculs, vous voyez. C'est pas très intéressant de tricher dans ses propres calculs. Bon, c'est bien quand on est comptable pour le fisc, et si on est le comptable d'Al Capone, mais sinon, en mathématiques, c'est une éthique, peut-être, je ne sais pas, c'est ce qui fait dire à mon avis à Cantor que les mathématiques, c'est la liberté. Faire des mathématiques, c'est ne plus du tout être inquiété, se donner des contraintes syntaxiques telles qu'on n'est plus du tout inquiété par le fait, justement, d'avoir besoin de tricher ou pas tricher. C'est con. C'est tout simplement con. Alors que, c'est peut-être une des définitions de la connerie, d'ailleurs. Et c'est peut-être ce qui fait que certains n'aiment pas ça. Mais le problème, il est que vous voyez que ça, en plus, ce contexte-là, ceci, si vous substituez à R, Q implique P, cet énoncé qui n'est pas une thèse devient une thèse. C'est la moindre des choses. Et surtout, je disais le contraire ici, je disais la même chose, mais en sens inverse, l'autre conséquence du fait que ce n'est pas indépendant du contexte, les mathématiques, hein, c'est que non seulement le fait de substituer indépendamment du contexte a un effet sur le contexte, et le contexte a un effet évidemment sur chacune des lettres que vous employez, parce que je vous mets au défi d'arriver à effacer, à faire disparaître de l'écriture moins X le fait que c'est l'écriture standard, hein, c'est-à-dire adoptée d'une manière translinguistique. Comme l'ensemble vide de Cantor, mais dans l'écriture standard, c'est la manière d'écrire l'élément opposé dans l'addition. Bon. Donc vous voyez bien que c'est pas mécanique, c'est du langage. Hein, le langage produit des machines nouvelles, et il y a des machines qui se détachent du langage, c'est la question de Turing calculable. Turing, c'est un génie, il a construit des processus qui peuvent justement se passer du sujet. Bon. Mais aujourd'hui, on considère que tout ce qui est calculable, c'est la thèse de Church. La thèse de Church, même j'ai entendu un analyste en parler autrefois, pour dire des bêtises d'ailleurs, que la thèse de Church, c'est quelqu'un qui parlait de la thèse de Lacan, effrayant, en le comparant à la thèse de Church. La thèse de Church, c'est qui dit que ce qui est calculable, c'est ce qui est Turing calculable. C'est une thèse, c'est pas un théorème, parce que c'est une pétition de principe. Mais cette pétition de principe, on n'est pas obligé de l'adopter. Vous voyez ? Et moi, je ne l'adopte pas. Je prétends, j'ai même fait un livre là, sur le groupe fondamental des nœuds, dans lequel je donne un processus de calcul du groupe fondamental des nœuds par le dessin, qui n'est pas directement Turing calculable. Il faut le traduire en système de Wirtinger, qui plaît aux informaticiens, et à tous les mathématiciens aujourd'hui. Hein. Alors que moi, j'ai redécouvert avec souris le processus de Denne, mais qui n'est pas directement mécanisable. Il faut le transcrire. Donc, et en plus, on n'a pas... Wirtinger, ça permet de simuler des fragments dans les machines. Hein. Ensuite, vous voyez que... Ne croyez pas qu'avec même le processus de Wirtinger qui est calculable, il suffit d'appuyer sur un bouton, vous donnez un nœud à la machine, là, et puis vous appuyez sur un bouton, puis pof, il vous file le groupe. Ça, c'est un rêve. Bon. C'est juste une calculabilité vraiment locale. Alors, c'est des problèmes comme ça qui intéressent toujours la psychanalyse, parce que ça, c'était les thèmes de Lacan dans le séminaire 2. Tout ça. Alors, voilà pour les difficultés. Voilà pour les difficultés. Et je retiens deux choses, donc. Hein. C'est que l'addition, le plus écrit aussi bien le fait d'additionner que de soustraire. Puisque les éléments sont leurs propres opposés. Et soustraire, c'est ajouter l'opposé. Et puis, le moins, en aucun cas, ne s'écrit, on peut le chercher pendant très longtemps, en aucun cas, il s'écrit avec un caractère qu'on met devant X. On peut le mettre devant. Mais regardez, si vous voulez écrire le non-X, hein, en mettant quelque chose devant X, il faut mettre devant X, il faut mettre 1 plus X. C'est la fonction 1 plus, si vous voulez. 1 plus. Et les parenthèses ne servent pas beaucoup. Ça veut dire que c'est la fonction aussi x plus 1. Bon. Donc vous pouvez dire que la négation, appelons-la n, la fonction négation de x, c'est quoi? C'est x plus 1. Voilà. Bon. Et donc ici, vous avez quelque chose qui est en dehors de A, et là, quelque chose qui est en dehors de A prime. Donc qu'est-ce que c'est que cette écriture-là qui va me servir à écrire mon domaine DB. Dans DB, j'ai D0 plus j'ai retiré l'intersection S inter A plus je retire ce qui est en dehors de A et ce qui est en dehors de A prime et ce qui est dans l'intersection. Je dois pouvoir simplifier cette écriture. Ça, c'est mon lambda 0 D0, K0. Hein. Ça, c'est un premier terme. Ça, c'est un deuxième terme. Je vais appeler premier, deuxième. Bon. Il y a trois termes, d'accord, dans le domaine DP, pour écrire cette situation-là. Il y a combien de zones qui ne sont pas neutralisées par les hachures noires? Ici, il y a une zone extérieure, il y a les deux trous, ça fait trois. Et puis, il y a la zone verte, la zone hachurée en l'intersection, en bleu, et la zone... Donc ici, il y a six zones. Dans ce domaine, il doit y avoir six zones. Où sont-elles dans mon schéma? Les six zones, elles sont là, regardez. Il y a l'extérieur, les deux trous. Celle-ci, mais il n'y a pas celle-là et il n'y a pas ces deux-là. Alors c'est pour ça que je vous propose à partir de là de regarder un peu quels sont les paquets de zones qui vont nous intéresser dans le calcul. Parce que justement, vous voyez, lire, c'est découper. Et c'est réécrire, et réécrire, c'est... quand on réécrit, on transcrit et on découpe autrement. Donc, lire, c'est faire des découpages dans des découpages. Et transcrire, c'est lire. Lire, c'est transcrire. Quand vous lisez, vous êtes en train d'écrire le bouquin que vous êtes en train de lire. C'est-à-dire que vous lisez ce que vous voulez. C'est comme quand vous écoutez quelqu'un parler, c'est vous qui décidez de mettre les coupures où vous voulez, parce qu'il n'y en a pas dans le flux verbal. Alors, c'est... Quand vous n'avez pas le courage de mettre les coupures, vous pouvez toujours acquiescer en disant « j'essaie de parler » et puis faire « oui, très bien ». Moi, j'ai fait ça très longtemps en espagnol parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais je disais « oui, très bien ». C'est un peu chiant au bout d'un moment dans les dîners, les déjeuners, les asados chez les amis, parce qu'on ne comprend rien à la conversation. Quoi. Alors petit à petit, on se met quoi? Ben, on apprend à découper. On apprend à introduire ce que c'est pas faire ce que déteste le paranoïaque, c'est-à-dire qu'il faut introduire les sections, ce qu'on appelle, en linguistique, on appelle ça les découpes séquentielles. Vous voulez dire quelque chose?
Ah oui, j'ai une question pour vous couper. C'est pourquoi vous écrivez S chapeau A et pas S point A?
Là, parce que je peux écrire les deux, mais si je l'écris S, ce que vous appelez chapeau, c'est la conjonction.
Oui.
C'est, je suis en train d'écrire dans un système d'écriture qui s'appelle le calcul de la coordination. Si je mets S point A, je suis en algèbre de Boole, parce que c'est un produit dans l'algèbre de Boole. Et les actions, et attendez, la construction de ces systèmes d'écriture n'est pas le même.
Mais là-bas, il n'y a pas un mélange, justement?
C'est forcément un mélange, puisque je veux vous inviter à écrire en algèbre de Boole. Ici, par exemple, là, il y a un mélange. C'est évident.
Oui.
Parce que ceci est en algèbre de Boole, justement, ça s'écrit, c'est non. Alors, c'est quoi ça? C'est la négation de A et non S. Donc, c'est bien mon lambda 0, vous voyez. c'est la négation, je n'ai plus un, et c'est A facteur de non S. S plus 1. Vous remarquerez que A facteur de S plus 1 plus 1, je crois que c'est mon lambda 0. Non ? Vous voyez ? Il est caché dans la flèche. Bon. Donc, c'est ça qui nous intéresse dans ce genre d'exercice. C'est pour ça que c'est pas la peine d'aller faire des mathématiques très compliquées. Hein. Vous savez, quand à Milan, ils m'ont demandé de leur expliquer le théorème de Stock, parce que là, quand on parle pour la pulsion, vous savez ce que je leur ai répondu ? Je leur ai répondu par un article que j'ai appelé « Bulle de savon ». Je leur ai dit, écoutez, c'est sûrement très intéressant d'étudier le théorème de Stock et les intégrales doubles et triples, tout ce que vous voulez. René Thom, par exemple, disait que c'était le plus beau théorème des mathématiques. Alors, si on est esthète, c'est très bien. Mais je peux aussi faire la réponse. Moi, je peux faire la réponse de celle de Valérie. Ils sont en train de tuer quelqu'un. Il y a Valérie, il disait à un type qui lui a envoyé une lettre pour lui demander quoi lire pour commencer à faire de la mécanique. Et qu'est-ce que vous me conseillez ? Bon. Alors, Valérie, c'est dans le bouquin de Lyonnais. Ouais, il l'a mis en préface, la lettre de Valérie. Valérie, il dit, bon, vous pouvez toujours lire avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'intérêt les grands manuscrits de Hamilton, bon, les mécaniciens. Bon. Mais si je peux vous donner un conseil, pour commencer, vous devriez vous interroger sur les choses les plus simples en apparence, comme qu'est-ce que c'est que 0, qu'est-ce que c'est que 1, qu'est-ce que c'est que plus. Vous voyez, c'est ça que je propose de faire. Vous voyez ? C'est de se poser la question, mais pas d'une manière unilatérale, pas sans moyen. Si vous réfléchissez à ce que sont les connecteurs logiques et les connexions, avec la logique de la coordination, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, c'est pas la subordination des propositions, c'est la coordination des propositions, et c'est aussi la coordination des concepts. Bon. Ça, on ne le dit jamais suffisamment, parce que les pauvres étudiants, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi c'est décidable et complet quand c'est de la coordination et que le calcul des prédicats, qui est là aussi de la coordination, plus le compteur, ça devrait être juste une valeur sémantique, pourquoi ça devient indécidable, ça va devenir incomplet alors que c'est. Il paraîtrait que c'est consistant. Bon. Mais c'est sûrement incomplet, aujourd'hui on le sait, grâce à Intica. Donc qu'est-ce qui se passe? Je finis juste la séquence, c'est pour dire que le calcul de la coordination. Il va présenter quelques petits problèmes à l'écriture pour les démonstrations parce que vous avez deux fois le même système dans un système. Si c'est pas du S1, S2, si c'est pas encore du phonème, c'est pas du phonème, c'est de l'écrit, c'est de la lettre, vous voyez. Mais le système de le calcul des prédicats, c'est deux calculs de la coordination, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le calcul des propositions. Moi, je l'appelle pas proposition, non, puisque c'est les propositions et les concepts. Et comme dans le calcul des prédicats, on trouve les deux, les prédicats qui sont coordonnés entre eux et qui deviennent des propositions grâce au compteur ou à l'instanciation, vous avez aussi un calcul des propositions, vous voyez. Et c'est le fait que du 2 et 1 se croisent, comme ça, que la même chose se dédouble, que vous rentrez dans un problème de langage où vous allez rentrer de l'incomplétude. Bon. Mais Frege, il a cru et Quine, il a cru dur comme fer que c'était consistant et complet. Oui, vous vouliez dire quelque chose ?
Non, moi, c'était une question un peu plus simple.
Oui.
Vos anneaux troués,
oui.
Pourquoi ont-ils besoin de l'extérieur ? Est-ce que vous raisonnez simplement sur... Il n'y a pas besoin de l'extérieur.
L'espace extérieur ? Oui, mais moi, je lui donne la même couleur, couleur que le trou. Si vous voulez, comme ce sont des disques troués, pour moi, l'extérieur, c'est un trou aussi. Ce n'est qu'un trou entre les ronds. Ça, c'est ma réponse. Je ne sais pas si ça vous satisfait, mais je vous réponds pourquoi. Moi, je fais une différence entre du plein et du trou, hein, quelque chose qui a une couleur de trou, couleur de vide. Eh bien, pour moi, il y a un trou qui est autour. C'est justement la question du trauma, c'est la question de la droite infinie. C'est le trou dans lequel nous nous trouvons et auquel on ne pense pas. Donc j'en ai pas besoin, si vous voulez, mais il existe. Et si je suis sur la sphère, c'est un trou comme les autres. Parce que regardez, si je dessine sur une sphère, vous voyez, une sphère comme ça, vous voyez, je mets un équateur pour qu'on voit bien ce que c'est la sphère. Hein. Si je dessine un disque avec un trou ici, je peux même en mettre un très gros là, comme ça, peu importe la taille, ok, Vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4 cercles sur la sphère. Hein. Ben, je vous fais une transformation, je ne vais plus écrire l'équateur. Mais vous voyez que il n'y a aucune raison de ne pas considérer que ces quatre cercles, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas ceux-là. C'est les mêmes. Seulement, vous voyez, je mettrai du rouge ici et du vert ici pour faire voir la différence. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce dessin ici? Vous voyez, ici c'est vert, le disque vert, A avec son trou A prime, et ça c'est le disque rouge. Ben, moi, je pense que c'est exactement la même chose que dans cette déformation. Vous avez le disque rouge ici, vous voyez, et le disque vert, il occupe toute la place là. Parce qu'il y a le rond, le bord du disque vert, je l'ai fait passer par la face cachée de la sphère, et je l'ai fait venir se refermer autour du rouge, vous voyez. Et voilà, et qu'est-ce qui reste dans mon disque rouge, dans mon disque vert, il reste le petit trou A' qui est toujours là. Bon. C'est pour vous mettre sur la piste du fait que, justement, même dans les gens qui font de la topologie, et même de la topologie des nœuds, ils ont encore insuffisamment réfléchi à ce que c'est que des ronds sur la sphère. Et c'est le début de ce que fait Lacan. Hein. Ensuite, il va les faire bouger, se croiser. Et donc, et Lacan, avec son graphe, il se situe entre le point de Capiton, que j'ai dessiné là, de faire bouger les choses qui rentrent en contact, qui se traversent. Hein. Et puis, les diagrammes de Lerven, qui eux cherchent à avoir toutes les zones présentes. Bon. Mais moi, je ne parle pas beaucoup de l'espace qui est autour, vous voyez, dans mon exposé, parce que je veux dire que c'est lié à la suite, si vous comprenez. Dans le présent, vous allez, ah non, c'est pas parce que j'en parle pas.
Même, ça peut être, quand vous dites que c'est la même chose que le trou,
oui.
Ça peut induire à peut-être à une incompréhension. Étant donné que le trou est quand même. Tout est caractéristique de la topologie justement de ce petit disque.
Donc, non, moi je pense que c'est.
Le trou a un sens, je veux dire. Et même dans votre raisonnement, il est central.
Oui.
Mais le reste.
Bon.
Le reste.
Oui, bon, mais bon, c'est juste pour vous dire que le trou, il est. Le trou qui est autour, il est un trou extrêmement important dans tous les cas. Parce que justement, c'est celui qu'on oublie, auquel on ne pense pas. C'est exactement la question du dire. Vous voyez, c'est le zéro. C'est l'élément neutre. Vous voyez. Donc, c'est ça. Bon, moi, j'en fais pas de cas. C'est vous qui m'interrogez là-dessus. Moi, j'en ai pas beaucoup parlé de ce trou. Hein, vous voyez. Mais quand je compte les zones pour savoir si ma correspondance entre les deux types de dessins et d'écriture se correspondent bien. Je compte le trou qui est autour. Bon, je l'oublie pas, vous comprenez? Ici, j'ai combien de zones? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 zones dans ce dessin. Eh bien, les 5 zones, elles correspondent bien à 1, 2, 3, 4, 5 zones si je raye toute l'intersection. Hein? Si je raye toute l'intersection, je suis dans la situation alpha. Si j'allume cette zone assurée qui s'écrit comme ça, je suis dans la situation bêta. J'ai ajouté ça. J'ai ajouté la partie assurée. Et là, je veux rendre compte de ce qui se passe quand je passe de là à là. Alors, donc le point important ce soir, c'est de commencer à écrire ces choses-là, hein, et de voir que ce dessin que j'ai fait ici, dans mon domaine des zéros, il y a trois choses. Si je développe ça, si je développe des zéros, est-ce que je l'ai écrit ici? Non, je ne l'ai pas écrit ici, donc je l'ai écrit nulle part pour l'instant. Bon, si je fais le produit de A facteur de S plus 1 plus 1 multiplié par A prime facteur de A plus 1 plus 1, donc si je développe lambda 0 multiplié par k 0, ça c'est des 0, j'appelle ça le domaine des 0. Alors c'est pas très difficile, vous voyez, c'est as plus a plus 1, c'est as plus a, plus 1 multiplié par A' grand A plus A' plus 1. Il y a trois termes des deux côtés. Donc on va en avoir 9 au total. On va avoir AS par A'A. Donc on a AS A'A. C'est le premier qui apparaît. AS multiplié par A'A, ça va donner AS A'A. Qu'est-ce que c'est que cet élément dans mon domaine ? C'est ce trou-là. C'est le trou central. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça dit cet énoncé ? Ça dit que nous sommes dans les quatre ronds en même temps. Donc nous sommes dans l'intersection commune des quatre ronds. On n'est pas en dehors, on est en dehors d'aucun rond, puisqu'il n'y a pas de plus 1. Bon. Donc moi je vous propose d'appeler 1 cette zone. C'est une zone qui est remarquable parce qu'elle interviendra, elle sera presque tout le temps éteinte, sauf à la fin. Hein? Donc ça c'est AS. A'A. Bon. C'est la zone qui est dans ce schéma-là, hein, qui s'écrit numéro 1. Bon. Alors, ensuite, si je développe ce calcul, ça fait A plus A'S plus AS plus A'A plus AA. Bon. C'est tout bête hein, comme calcul. Et plus A prime. Non, plus A. Plus A prime, plus A. Bon. Et puis 1. Donc je rajoute plus A prime grand A, plus petit A prime, plus 1. Bon. J'ai bien combien de termes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais prévu 9 puisque c'est 3 par 3. Bon. Est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites deux fois ? S'il y a des choses qui sont écrites deux fois, c'est vachement bien parce qu'on peut les supprimer. Hein, c'est la règle de la superposition, de l'éclipse. Bon. Mais là, je ne vois pas de choses spécialement à écrire deux fois. Alors, par contre, vous voyez que ici, j'ai S, ici, j'ai A, ici, j'ai A. Et j'ai des termes où il n'y a ni S, ni A. J'ai ce terme A', le terme A, le terme A' et le terme 1. Il n'y a pas S et A. Donc, je vais les ségrégué de cette manière. Le premier, j'en ai déjà parlé. Hein, d'accord ? J'ai A, S, A', c'est le premier. Bon. Plus, là où il y a S et A, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça ? Ben, je vois que c'est les... Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Il se passe que j'ai A, A', S, plus A, S. Bon, je pourrais mettre A, S en facteur. Voilà. Donc j'ai A' plus 1 facteur de S et de petit a, A petit s. Et j'ai ensuite, avec le grand A et le petit a', j'ai A plus 1 facteur de A' grand A. Bon. Et puis, tous ceux qui sont sans ni S ni A, c'est A', c'est A, c'est A' et c'est 1. C'est cela. C'est quoi ça ? Eh bien, c'est le développement de ce produit-là. C'est le développement de ce produit-là. Qu'est-ce que c'est que ce produit ? Si je le calcule, ça donne A' plus A plus A' plus 1. Vous voyez, c'est ces quatre-là. Ils sont là tous les quatre. Donc, il y a le terme, ici, il y a un terme qui s'ajoute qui s'appelle A' plus A plus A' plus 1. Donc, ce terme-là, c'est le produit, c'est pas la peine que je l'écrive comme ça d'ailleurs, parce que je l'ai écrit au-dessus. Donc je vais le factoriser. Le factoriser, ça veut dire que je vais l'écrire comme ce facteur, comme ce produit de deux facteurs. A plus 1 facteur de A' plus 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est l'intersection, c'est le produit des deux zones qui sont à la fois, des zones qui sont à la fois en dehors de A et en dehors de A'. Et bien, c'est ce que je vais appeler numéro 3. Regardez. Vous voyez, toutes les zones qui sont là sont soit dans A', soit dans A, soit dans les deux. Toutes les zones qui sont dans les deux haricots. Par contre, tout ce qui est en dehors, là, vous voyez, hein, tout ce qui est en dehors de ces deux haricots, tout ce que j'ai nommé 3, alors justement, quand je fais le tour, vous voyez, j'ai fait le tour comme ça. J'ai fait le tour comme ça, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié l'espace qui est autour. Oui, justement, on l'oublie. Mais n'empêche qu'il fait partie de Lui justement, il s'écrit avec la négation de toutes les lettres. L'espace qui est autour, lui, il s'écrit A plus 1, S plus 1, A prime plus 1, grand A plus 1. Bon. Alors, son développement est assez long. Hein. Et le problème, pourquoi le développer ? Ben, le développer, c'est pour lui trouver une autre expression. Vous voyez, c'est qu'un jeu de transcription. Donc, c'est très savant, mais c'est quand même à la portée de... C'est réputé être à la portée des élèves de seconde. Je pense que c'est à la portée de quelqu'un qui apprend à lire et à écrire, parce que ça fait partie de l'alphabétisation. C'est de l'algèbre. C'est pas de l'arithmétique. Mais n'empêche que ce que je propose d'écrire 3, il s'écrit très bien, c'est A plus 1 facteur de A prime plus 1. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que cet espace-là, il n'est pas séparé il n'est pas séparé par A et par S, il est séparé que par A petit a et petit a prime. Cet espace, il est l'espace qui est tout autour, et le cercle S et le cercle A n'ont pas d'effet sur cet espace qui est autour. C'est-à-dire que toutes les zones, les quatre zones, hein, ces quatre zones que je peux appeler 1, 2, 3, 4, font partie de mon numéro 3. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse de faire ce genre de truc ? C'est une méthode. Hein. C'est que faut faire des choix, faut prendre des décisions, faut regrouper les choses pour pouvoir écrire et lire. Hein. Donc, je suis comme tout le monde. Moi, j'aime bien faire de l'algèbre. Et l'algèbre de Boole, c'est très amusant parce que c'est un véritable accordéon. Très surprenant. Et surtout, si vous essayez de lire vos calculs sur les figures, vous allez voir que vous allez apprendre de la logique. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont inimaginables et qui se produisent, ça va bien au-delà de la syllogistique. Bon. Et donc, qu'est-ce qui reste ici ? Ben, il reste un terme où il y a grand A ou grand S. Il y a quatre termes. Il y a quatre termes qui font un complexe de zones, de quatre termes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces quatre termes qui restent ? Ils sont 1, 2... Ah ben non, là, j'ai le premier, je l'ai mis de côté, c'est le numéro 1. Bon. Donc ces quatre termes, je les ai regroupés deux par deux, en A' plus 1 et en A plus 1. Bon. Le quatrième terme, c'est les deux zones qui sont là. Et c'est celles qui sont les plus intéressantes pour écrire la séparation. C'est pour ça que je vous propose ce découpage. Je vous propose ce découpage parce que il y a quatre zones là dans ces deux complexes de zones. Vous voyez, il y a quatre zones, c'est ces deux zones-là et ces deux zones-là. Et la séparation, ça va être faire agir ce numéro 2, l'expression de ce numéro 2 sur le domaine des bêta. Vous voyez ? Ici, je l'ai dit la dernière fois, D de delta, c'est-à-dire l'arrivée ici, ça va être égal à D de bêta, que j'ai écrit là, je ne l'ai pas développé, je ne l'ai pas encore étudié, hein, plus un certain nombre que j'appelle sigma. Je vous propose que cette zone complexe qui est la zone 2, on l'appelle sigma, petit sigma grec. Mais cette zone, elle a une écriture chiante. Alors, cette zone, j'écris son écriture. Par exemple, ici, j'ai réussi déjà à les regrouper. Donc, c'est petit a s a prime plus 1 plus petit a plus 1 a prime grand a. Voilà. Ça, c'est sigma. Vous ne pouvez pas le lire, il faut que je l'écrive plus grand. Hein ? Alors pour ça, j'efface les calculs, parce que les calculs maintenant ça va, on a vu. Ça c'était le calcul de D0. Hein. D0 c'est le produit de ces deux-là. Donc qu'est-ce que c'est que le résultat de tout ce calcul ? Voilà, si je reviens au point de départ, j'ai un domaine D0 qui est égal à lambda 0 multiplié par K0. Ça donne quoi ? Ça donne 1 plus 2 plus 3. Bon. Je peux dire aussi que ça donne A grand S, A prime grand A, parce que celui-là il est facile à écrire. Sigma plus, A plus 1 facteur de A prime plus 1. Parce que ça c'est facile à écrire. 1 et 3 sont faciles à écrire. Vous voyez ? Mais sigma, c'est ce qui va nous intéresser. Alors je l'écris en grand maintenant. Sigma c'est égal à. Là, on est arrivé à l'écrire A S A prime plus 1 plus. A plus 1, A prime grand A. Mais, il faut le regarder de plus près parce que il est fait de quatre zones. Qu'est-ce que c'est que AS a pris plus 1? Voilà, vous voyez, les deux termes que j'ai réussi à isoler parmi les quatre termes que j'avais écrits dans le développement, quels sont-ils? AS, et bien ça c'est à l'intérieur de l'intersection de A et de S. Vous voyez bien que c'est ces deux-là. Vous voyez, ceci, ça écrit qu'il y a un 2, 1 et un 2, 2. Voilà. Comment voir ça? Ça, c'est 2, indice 1, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que S, c'est tout le cercle qui est là. J'en ai effacé un bout au travers de 2. Et S, c'est tout le cercle qui est là. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans A? Il y a ça, ça, ça. Il y a quatre termes dans S inter A. Comme il y en a quatre qui sont dehors. Ah oui, alors c'est plus grand que ça. Ah oui, attendez. Ce que je suis en train de dire. Ah, mais c'est en dehors de A prime plus 1. Ah voilà, c'est dans A et dans S. Vous voyez, c'est dans l'intersection du haricot A, le haricot A qui est ici. C'est à l'intérieur de S, le cercle S, mais c'est aussi à l'extérieur de A', du haricot A'. Donc c'est seulement ces deux-là. Ça, c'est deux zones. C'est bien celle-ci. Hein. Et ici, vous avez A'A. A'A, c'est l'intersection de A' avec grand A. Mais c'est en dehors de A du fait qu'il y a A plus 1 devant. Donc c'est seulement ces deux zones-là. Donc c'est bien ce 2, indice 2. Vous avez 2, indice 1 et 2, indice 2. Vous voyez, le 2 se sépare bien en 2. Et chacune des parties. Bon, donc voilà, c'est un exercice. À mon avis, c'est ça commencer à faire de la topologie. C'est faire un exercice de dessin et un exercice d'écriture. Et lire les dessins avec les écritures ou lire les écritures avec les dessins. Et là, c'est l'intérêt parce que c'est ce que fait Lacan en permanence et c'est ce qui lui permet de faire, par exemple, dans la troisième, il met un magnifique dessin que j'ai commencé à commenter à la Visimac la samedi dernier. J'ai montré comment on pouvait l'obtenir et il y a des calculs qui accompagnent ces dessins, ces transformations topologiques. Et ça permet de faire un lien entre le schémaïde Schreber chez Lacan et ce que dit Lacan à la fin de la troisième. Bon. Mais qui va lire ça? Il faut passer par l'écriture, justement, qui est dans, avec phi 0, p 0, a prime, i, s, r, dans les parties, dans les schémas de Lacan, dans le schémaïde. Et le schémaïde, on va le retrouver ici, hein, dans notre diagramme. Vous voyez? L'étape que je dessine ici, c'est l'étape du schéma R. On pourrait dire que l'étape du schéma L, c'est alpha. Il n'y a pas d'intersection. L'intersection est réduite à une ligne. Alors qu'ici, il y a une intersection. Mais les trous sont en dehors de l'intersection. Et bien justement, dans le schéma R, dans le schéma I de Lacan, dans le cas Schreber, il y a deux trous en dehors de l'intersection. Et le dernier trou qu'on n'a pas vu, mais qui est dans l'intersection, le trou A'. Donc ça c'est le trou P0, ça c'est le trou phi 0, ça c'est le trou P0, et ça c'est le trou A' du schéma I, par exemple. Si je me sers de ce diagramme pour lire les schémas L, R et I de Lacan. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Lacan? Il ne va pas donner le code. Il ne donne pas de codage. Il ne dit pas je vais appeler ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça, la lettre P0, ça correspond à ça. Non. Il les commente. En liaison avec son commentaire, il l'utilise pour commenter la lecture qu'il fait de Freud lisant Schreber et la lecture qu'il fait de Schreber. Bon, très bien. Mais le problème, c'est que, vous voyez, par exemple, vous trouverez dans les écrits de souris Lacan qui fait une chaîne à 6, une chaîne borroméenne à 6 ronds et qui nomme chaque rond. Il y en a un qui l'appelle principe du plaisir, un autre inconscient, un autre. Bon. Et souris se gratte la tête là-dessus. Bon, moi je dis à souris, il faut faire des gammes. Il faut faire des gammes avec Lacan. Et voir comment, petit à petit, en faisant des gammes, c'est-à-dire en apprenant à lire deux écritures qui vont se correspondre, mais qui ne sont pas simplement des pointages. Je fais des pointages, c'est pour vérifier. C'est comme la règle de 3, si vous voulez. Quand je compte les zones, vous voyez, c'est comme la règle de 3. Je vérifie que je ne suis pas complètement à côté. J'ai quelques moyens comme ça de m'assurer que je ne vais pas faire des grosses erreurs. Bon. Mais si je veux être parfaitement rigoureux, il faut que je regarde chaque détail du calcul. Ça veut dire qu'il faut regarder chaque zone. Bon. Donc, voilà. Et pour manipuler ensuite, pour arriver à écrire avec ça, il est évident, vous voyez, qu'il faut, il faut regarder les différentes façons d'écrire ce terme sigma, là, qui est mal pratique. Pourquoi est-ce qu'il est mal pratique? Regardez, c'est que il a les deux zones, verte et rouge, ici, elles vont avoir une écriture très simple dans sigma. Je sais que dans sigma, je vais avoir A plus A prime. Qu'est-ce que c'est que A plus A prime, hein? A plus A prime, s'ils étaient tout seuls, ce serait ça, A plus A prime. A plus A prime, c'est pas l'intersection, c'est pas ce qui est en dehors. Vous voyez? A plus A prime, c'est ça. Il y a quelque chose qui est dans A, quelque chose qui est dans A prime, et qui se tient, les deux parties, les deux lunes se tiennent par le sommet. Vous voyez? C'est comme dans la chapelle Sixtine, c'est Dieu et Adam, vous voyez, ils se touchent comme ça. Ça va faire une étincelle. C'est un truc qui est très peu lu et très mal lu par les logiciens. Et alors, il n'y a pas d'enseignement de ça, ça n'intéresse personne. Et bien, nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est comment on peut utiliser ça pour effectivement, non pas seulement décréter quelles sont les lois logiques, dogmatiques, qu'il faut respecter, mais pour faire de la logique avec les lois logiques. Vous voyez ? C'est deux façons de faire de la logique très différentes. Moi, ça m'amuse parce que tous les gens disent « je fais de la logique », ils sont là, ils lisent Lukasiewicz, ils lisent... Bon, c'est très intéressant, mais Lukasiewicz, ils lisent Frege, il y en a même qui veulent lire Gödel. Bon, ils ont raison, c'est très très intéressant, il faut le faire. Seulement, c'est faire de la logique, c'est pas seulement établir les tables de la loi, ça c'est un truc vachement qu'ancien, vous voyez, les tables, les catégories. Il y a des gens qui croient que faire de la logique, c'est simplement apprendre par cœur les syllogismes d'Aristote, en plus dans les moyens mnémotechniques médiévaux, enfin scolastiques, vous savez, avec les formules Barbara et les autres, bon, qui sont des moyens mnémotechniques pour apprendre les syllogismes, avec leurs prémices, leurs arguments et leurs conclusions. Bon. Moi, je pense que c'est une très mauvaise façon de faire de la syllogistique. Je connais un type à Buenos Aires, il est assis toujours sur sa chaise, il ne fait jamais rien, mais il connaît par cœur tous les noms des syllogismes aristotéliciens de l'époque médiévale. Bon. Et dès qu'il y a une occasion, il commence à les réciter. Je suis obligé de l'arrêter, je lui dis stop un peu. Bon. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas les trucs appris par cœur, vous comprenez? Moi, je n'ai jamais rien appris par cœur en mathématiques. J'ai toujours, pour retrouver, pour ne pas ramener les antiches sèches au bac et retrouver les formules, quand je faisais de la trigonométrie, par exemple, eh bien, je connaissais le pont total, sinus carré x plus cosinus carré x égale 1, et je connais toutes les méthodes de déclinaison des autres formules trigonométriques à partir de celle-là, grâce au cercle trigonométrique en plus. Parce que vous avez l'aide, vous pouvez vous appuyer du cercle trigonométrique pour imaginer les démonstrations qui vont vous faire passer des sinus au cosinus, aux tangentes. Avec de l'intuition algébrique et de l'intuition géométrique, vous arrivez. Bon, ce que c'est l'intuition? C'est un goût. Enfin, c'est d'être tombé dans la bassine, c'est le trauma, quoi. Vous avez été touché par quelque chose qui vous paraît visible et vous essayez de vous en servir. C'est ça l'intuition. D'accord, il dit, on peut conserver le mot d'intuition à condition de se débarrasser de tout ce qu'il a d'imaginaire, de le nettoyer de tout ce qu'il a d'imaginaire. Bon, ça c'est dans l'étourdi. Moi je vous propose de bien voir que dans Kant, hein, vous avez la perception, la sensibilité fournie à l'intuition des objets, comme ce stylo, et l'entendement va conceptualiser ces objets. Il va faire des ronds, hein, la logique des prédicats, la logique des concepts. On fait des ronds, on met tous les trucs bleus d'un côté, les trucs rouges de l'autre, et on peut même faire des intersections. On croit que la théorie des ensembles, ça suffit, c'est ça. Bon. Mais vous voyez que c'est très insuffisant parce que la question, elle est que Kant, il a pas vu que dans ma sensibilité fait rentrer dans mon intuition aussi des textes. Et les textes, ils sont faits avec des lettres. Et les objets sont des lettres. C'est pour ça que Lacan parle de l'objet A. Hein? L'objet lettre, il est rentré dans mon intuition par ma sensibilité. Mais est-ce que tout le monde qui prétend que le structuralisme, c'est que ça... faire des classifications des lettres, compter le nombre de E qu'il y a dans une œuvre pour voir des fréquences, ce qui est un exercice d'ailleurs intéressant. Hein? On se moque des études qu'on dit formelles. mais parce qu'en fin de compte, elles sont mathématiques et qu'elles sont théoriques et qu'on veut pas, et qu'on veut, il faut mieux être des bourrins, il faut pas être théorique, parce que théorique ça veut dire intelligent. Bon, donc intelligent, en fin de compte, théorique ça veut dire avoir des visions. Lisez Heidegger là-dessus, le mot théorie ça vient de vision. Bon. Ça vient d'intuition, ça vient aussi du fait que il y a des. Au moment du trauma, l'enfant il perçoit dans l'énonciation qu'il y a quelque chose à lire, il y a quelque chose qui s'appelle la puissance. C'est ça la fonction phallique. Le phallus il rentre par les oreilles. Et l'enfant il se rend compte que ça a des conséquences. Et il va faire des découvertes, il va faire rentrer, il va commencer à faire rentrer des morceaux de signifiants qui vont plus le quitter jusqu'à la fin de ses jours. La seule façon d'arriver à faire quelque chose avec ça, c'est de l'écrire. Parce que ça rentre comme lettre, ça rentre pas comme. La parole, elle parasite le texte, le corps, mais comme immédiatement, il y a des morceaux de signifiants qui font lettre. Mais lettre au sens de caractère d'écriture, n'est-ce pas? Et ces caractères d'écriture, vous voyez bien qu'ils sont dans mon intuition, et que ces caractères d'écriture, je ne les classifie pas, je ne vais pas passer mon temps uniquement à faire une classification. À faire des ronds pour les ranger comme un brocanteur. Bon. L'entendement qui fait la logique du concept, même Deleuze, il continue à nous bassiner avec ça. Bon, ils sont tous d'accord. Kojève dit la même chose. La philosophie, c'est le concept. C'est construire des concepts. Deleuze le dit également, c'est construire des concepts. Bon, construire des concepts, mais c'est très insuffisant. Ils ont sûrement raison. Moi, j'ai la plus grande estime et pour Deleuze et pour Canguilhem, oui, mais aussi Kojève. Et je trouve que ce sont des professeurs formidables, ce sont des gens extraordinaires, comme professeurs, comme analysants, justement. Même s'ils n'ont pas choisi de s'analyser avec Freud, avec Lacan, tant pis pour eux. Ils s'analysent avec ce qu'ils veulent. Les stoïciens, Nietzsche, Spinoza, qui est un peu nietzschéisé, pourquoi pas? Ça fait des beaux ouvrages. Bon. Mais le problème, il est surtout que ce qui n'est pas encore rentré d'une manière commune dans le discours occidental, c'est que nous avons dans l'intuition des lettres, et que ces lettres, on ne les classifie pas, on ne fait pas des classifications, on ne les trie pas, on les lit. Et qu'est-ce que c'est que lire? Voilà, l'entendement, il ne fait pas que du concept, l'entendement, il sait lire, ou il apprend à lire. Moi, à mon avis, il commence à apprendre à lire ce qui est rentré dans l'intuition avec le narcissisme. Donc le narcissisme, c'est le lieu, c'est l'école de la lecture où le sujet, il va toujours peu ou prou être psychotique parce qu'il y a un moment donné où il en a marre. Il dit « je voudrais avoir la lecture définitive ou une lecture... Bon. » Ben moi, je vais vous dire, la solution, elle est dans l'écrit. Si vous voulez conserver sa richesse à un texte, à un livre, à un ouvrage de philosophie, de littérature... De géographie, si vous êtes passionné. Bon, mais les bons livres, hein. Bon. Eh bien, vous voyez, Méditerranée. Si vous voulez conserver toute leur richesse au texte que vous lisez et qui vous emmerde, parce qu'à chaque fois que vous les reprenez, vous les relisez, c'est un autre livre que vous lisez. Parce que c'est vous qui lisez, vous y mettez ce que vous voulez, c'est vous qui découpez. Bon. Eh bien, votre façon de découper, il ne s'agit pas de la formaliser, mais il s'agit, je dirais, de la travailler. Et vous pouvez même écrire le fantasme, c'est ça. C'est arriver à trouver, n'est-ce pas, les structures, hein, d'écriture qui ont des propriétés spécifiques, de reconnaître que c'est de l'écriture, et d'arriver à établir les structures d'écriture qui sont celles qui correspondent aux questions que vous avez attrapées dans l'intuition dès le trauma. C'est celle dont vous ne pourrez jamais vous débarrasser. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, mais vous pouvez les dompter par la lettre. C'est-à-dire les écrire d'une manière qui est justement mathématique. Voilà. Les mathématiques, c'est une écriture qui conserve la multiplicité des lectures et qui est une écriture qui va rentrer dans une forme d'identité et d'unicité qui est très, très énigmatique. C'est ça, écrire le fantasme. Et c'est ça... Faire que dans la structure du fantasme, il y ait cette structure topologique dans son écriture qui fait que c'est le fantasme, il doit se traverser lui-même, voyez-vous. Et donc, dans la structure du fantasme, puisque la structure du fantasme, on va en parler la semaine prochaine, c'est S barré, c'est égal à S plus A prime Mais dans le cas delta, dans le cas vers lequel je vous dirige, hein, le S barré du fantasme, c'est les deux parties rouges, et petit a, c'est la partie verte ici. Hein. Donc, comment écrire une structure algébrique avec une syntaxe telle que la souplesse, la qualité grammaticale du fantasme, hein, voyez l'analyse de Freud à propos d'On bat un enfant. Personne, je crois, n'a rien fait sur A Glance on the Nose. Mais il y a quand même, ça s'entend quand même qu'il y a quelque chose entre le Glance et le Nose. Hein. Et puis, eh ben, évidemment, le Schreber, lui, il paraîtrait que c'est le paranoïaque qui décline le fantasme homosexuel. Ça, c'est la faiblesse de la théorie de Freud qu'il va falloir qu'on reprenne cette question du symptôme de Lacan pour expliquer comment justement le rejet de l'homosexualité chez le paranoïaque, c'est pas le rejet de son homosexualité. Moi, j'aime cet homme, c'est pas ça le fantasme. Le paranoïaque, il rejette la lisibilité. C'est le passage de Freud à Lacan. Pour Freud, rejet de son homosexualité. Pour Lacan, c'est forclusion. Forclusion, ça veut dire je rejette, c'est caduque. Voilà, la lecture et l'écriture, c'est caduque, c'est bon pour les classiques, vous voyez. Nous, maintenant, on a l'électronique, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de lire et d'écrire, les machines, elles font tout pour nous. Donc, et vous voyez bien que c'est bien connexe à l'homosexualité qu'avait aperçu Freud dans la paranoïa, puisque s'il y a quelque chose qui est difficile à lire, parce que c'est pas écrit dessus, hein, il n'y a pas écrit ici yaourt, Danone, comme disait un flic un jour, il m'a dit ça. Il n'y a pas écrit Danone ici. Bon, je n'avais jamais imaginé qu'il avait Danone écrit sur le front, mais bon. Et donc, le mec, c'est que c'est les juifs, les homosexuels, et puis quoi, même les psychanalystes, c'est des gens très douteux, parce qu'on ne sait pas comment savoir à qui ils sont. Hein. Bon, vous voyez. Alors qu'au moins les moines zen et les bouddhistes, ils se mettent en orange, en noir. Il y en a dans mon quartier, dans le 14e. Ils sont vachement repérables, ils adorent se porter des costumes, ils sont un peu drag queen. Allez, j'arrive. À la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine sera encore ici, j'espère qu'on aura toujours les tableaux. On ne va pas me les voler dans la semaine.